Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Un récit de vie est en général destiné en premier lieu au cercle familial et amical. Au-delà, il peut devenir le témoignage d'une expérience, d'une époque, d'une quête, d'un combat ou d'un espoir. Ici, il s'agit du cheminement de vie d'un autodidacte qui a dû naviguer par gros temps en affrontant des tempêtes physiques et psychologiques. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une vie, c'est aussi la preuve que nous ne sommes pas tous préparés de la même façon à aborder les vicissitudes de l'existence. On comprend de manière très pratique l'importance de l'éducation et de l'environnement familial. On perçoit que face à l'angoisse et au mal-vivre, il n'est pas évident de trouver des ressources adéquates, que chacun doit trouver des appuis qui lui sont propres pour aller de l'avant. On ne peut nier que parfois on se laisse embarquer dans des errements, des croyances et qu'on peut se laisser abuser. Ici, on constate que l'on peut garder le cap malgré l'adversité. Un témoignage, une leçon de vie particulière, c'est ce que nous propose Mireille Aublin-Brière dans Navigation par gros temps, récit de vie d'une personne qui lui est chère, paru aux éditions Complicité en 2021. Bonjour Mireille Aublin-Brière, bienvenue à Radio Présence.
Merci et bonjour à tous et bonjour à vos auditeurs.
Bonjour aux auditeurs et je vais leur rappeler dès maintenant que désormais ils peuvent retrouver les podcasts de toutes les émissions de Paroles d'auteur sur les grandes plateformes numériques, ce qui est un avantage pour pouvoir les écouter à l'heure où on veut et les réécouter aussi. Mireille Aublin-Brière, première question qui ne nécessite peut-être pas une réponse. Est-ce qu'il est possible d'écrire par gros temps?
Alors, c'est possible, mais je vais faire peut-être une double réponse. C'est-à-dire que si vous voulez écrire sur le cargo de René, celui pour lequel j'ai écrit ce livre, en mer déchaînée, c'est-à-dire en Atlantique Nord par exemple, lorsqu'il y avait des creux de 15 mètres et que le roulis était important à bord, ça me paraît difficile. On a le cœur un peu tordu là et pas les idées très claires. En revanche, Navigation par gros temps, ça peut également écrire lorsque nous avons des problèmes dans la vie. Et là, ça peut mettre la pression. Et effectivement, moi, ça m'est arrivé d'écrire dans des grandes douleurs, dans une sorte de navigation dans ma vie et dans celle des autres aussi, mais où les mots sont sortis peut-être plus puissants.
Voilà. Et moi, je vois peut-être une troisième réponse. Finalement, c'est dire que c'est peut-être difficile d'écrire au moment où on est dans l'action, où on subit les événements et que peut-être, quand c'est différé, il y a un temps de recul qui permet d'avoir un autre regard, d'autres perspectives.
Tout à fait. Les deux sont possibles. Hein. C'est-à-dire que vous crachez le morceau quelquefois au milieu de la tempête. Et puis après, vous avez un temps de repos, effectivement, de réflexion. Et vous pouvez écrire un peu différemment et revoir votre sujet.
D'accord. Alors Mireille Aublin-Brière, ce n'est pas la première fois que vous venez à Radio Présence. Nos auditeurs vous connaissent déjà. Néanmoins, je vais rappeler quelques petits éléments au sujet de votre biographie. Et naturellement, si je me trompe, si je fais des erreurs, vous n'hésitez pas à me corriger. Donc vous êtes née à Vire, dans le Calvados, c'est-à-dire bien loin de Toulouse, bien loin du sud-ouest. Vous êtes à l'heure actuelle retraitée et vous avez travaillé notamment aux Voies Navigables de France, où vous étiez chargé de la communication régionale, c'est bien ça?
Oui.
D'accord. Et on peut qualifier que votre activité et la meilleure pour vous caractériser, c'est historienne.
C'est un grand mot pour moi. Il y a des grands historiens, donc je me sens une petite historienne à côté des grands. Mais enfin, j'ai fait de la recherche très poussée, et notamment pour Pierre-Paul Riquet. J'ai étudié plus de 10 000 pièces de dossiers dans les archives du Canal du Midi et aux archives nationales. Et puis également pour d'autres sujets, mon parrain prisonnier de guerre en Allemagne, je suis allée étudier dans les archives nationales. Et c'est vrai que je suis un rat d'archives.
Alors on peut le dire comme ça, mais finalement, vous avez exercé des activités d'historienne, puisque vous étiez là par ces activités dans le cœur de métier. Alors, vous avez donc produit des ouvrages qui sont des ouvrages dignes d'une historienne. Et alors, je vais en citer quelques-uns pour que les auditeurs aient une idée de votre production. En 1975, vous avez écrit « Le vrai visage de Marie-Louise, impératrice des Français, duchesse de Parme », avec quelques autres titres. Et ce livre a obtenu le prix d'Urchon-Louvet de l'Académie française, qui vous a été remis sous la coupole de l'Institut de France par Maurice Schumann le 18 décembre 1975. Qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on a en souvenir après un événement pareil ?
Là, c'est le prix d'histoire de l'Académie française.
Oui.
Pour l'autre, c'est sur un autre livre. Mais c'est le prix d'histoire de l'Académie française. C'est vrai que lorsque j'ai eu cette invitation, j'ai cru que c'était un gag même. Et puis finalement, je suis allée toute seule comme une pauvrette sous la coupole. Et là, devant tous les académiciens, on m'a remis ce prix. Je me suis sentie un peu perdue et très honorée. Et après coup, je me suis dit, c'est un prix prestigieux. Et je n'en reviens pas encore.
Voilà. Et je peux vous dire qu'à Radio Présence, nous sommes très fiers de recevoir quelqu'un qui a reçu un tel prix.
Merci.
Alors, vous évoquez un autre livre qui a été primé par l'Académie française, qui a reçu le prix Nicolas Missarel de l'Académie française, qui est La Canne blanche, que vous avez fait paraître en 1982 aux éditions privates. C'est bien ça.
C'est cela.
Voilà.
Et oui, et là, c'est tout à fait particulier, parce qu'on m'a présenté celle qui inventait la canne blanche des aveugles. C'était à l'époque de Coty, ça remonte à très loin, du président Coty. Et c'est une aristocrate qui a eu cette bonne idée d'avoir d'inventer cette canne blanche parce qu'elle habitait face à l'établissement Valentin Houet. Et elle a été agréée, cette canne blanche, avec beaucoup de difficultés. Mais surtout, elle a financé 3000 cannes blanches et elle a financé 5000 concerts et des cannes blanches pour les aveugles. Elle a consacré toute sa vie aux aveugles. Voilà.
Ah, très bien. Alors, c'est ensuite, on peut dire, vous me direz si j'exagère, à partir de 2009, vous entamez un cheminement vers une spécialisation, on va dire, concernant Riquet, donc le bâtisseur du canal du Midi. En 2009, donc, vous sortez une histoire inédite du canal du Midi, qui reçoit la médaille de Vermeil de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Et en 2013, vous faites paraître Le Génie des Eaux, portrait intime de Riquet et prix de l'Académie du Languedoc également. Et à ce sujet-là, maintenant, effectivement, on dit et on peut constater que vous êtes une spécialiste et une autorité sur le sujet du canal du Midi.
C'est ce que l'on dit. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, j'ai étudié énormément sur Riquet. Et donc, on m'appelle même la fiancée du canal. la fiancée de Riquet, pardon.
La fiancée.
Oui, oui. Parce que ça a été très difficile de trouver des renseignements sur sa propre vie. Autant on peut trouver aux archives du canal du Midi des renseignements sur la construction du canal du Midi. Par contre, j'ai fait énormément de recherches sur sa vie à lui. Et j'ai trouvé des choses intéressantes.
Alors, quand on devient une spécialiste, on est forcément très sollicité. Et je crois savoir que ces sollicitations, vous n'y donnez pas toujours suite pour une bonne raison. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette bonne raison ?
Ah, alors, c'est ma timidité devant un micro. Et face aux médias, c'est quelque chose de terrible pour moi. Je suis passée à la télévision plusieurs fois, mais vous ne pouvez pas vous imaginer l'angoisse que ça me provoque. D'ailleurs, je parle moins bien. J'ai du mal à parler au micro. Et je me sens tétanisée. C'est idiot, c'est comme ça. Je suis née comme ça. Et j'ai fait même une thérapie. Et si je suis là, c'est que ça va mieux. J'ai vu une psychogénéalogiste qui m'a expliqué un peu le pourquoi du comment. Enfin, ça va mieux, même si c'est pas encore totalement, si je suis pas complètement guérie. Voilà. Et j'ai refusé une trentaine de conférences très bien payées, etc. J'ai tout refusé. Ah. Mais bon, j'ai repris depuis un petit peu. Et la preuve, je suis chez vous.
Voilà, et on vous en remercie beaucoup. Et nous sommes très fiers.
C'est moi qui vous remercie.
Bien, alors nous allons passer, voir de plus près cet ouvrage qui s'appelle, je le rappelle, Navigation par gros temps. Alors cet ouvrage, comment vous pouvez le qualifier pour les auditeurs?
C'est un témoignage de vie sur la vie de mon ami René Battard. Et ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est varié parce que... c'est quelqu'un qui, très jeune, enfin à 20 ans, avait fait deux fois le tour du monde. Et moi, comme j'aime beaucoup les voyages, lui aussi d'ailleurs, mais ça m'a intéressé, cette histoire de faire, de partir à 18 ans déjà, il avait navigué. À 20 ans, il a fait deux fois le tour du monde sur des cargos de marchandises et de voyageurs. Et ensuite, il est allé comme collaborateur dans diverses sociétés. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il avait un mal-être profond, mais très profond. Il a même eu des idées suicidaires. Et il a fait des thérapies hors du commun. Et j'ai trouvé que quand on n'est pas bien dans sa peau, et quand je le vois... comme un sage maintenant, vous voyez, c'est ça qui m'impressionne, plus sage que moi, même dans certaines, assez souvent. Vraiment, c'est la suite de thérapies intelligentes. Hein. Il ne faut pas aller voir n'importe qui, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais souvent, c'était des docteurs qui avaient pris un autre chemin, qui s'étaient spécialisés justement dans ce type de thérapie. Je vous ai parlé de psychogénéalogie, j'ai vu moi-même une psychogénéalogiste pour la mort de ma sœur, 50 ans plus tard, hein, je vous le dis tout de suite, et j'ai eu des migraines pendant 30 ans, mais si j'avais vu cette personne, peut-être que je m'en serais mieux sortie. Et donc, lui, c'est un peu cela. Il a fait tout un cheminement et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, c'est pourquoi je me suis penchée sur sa vie et que je l'ai écrite.
Alors, ce cheminement intéressant, il l'est aussi au titre de la variété de ses activités, la variété de ses quêtes et la variété de ses rencontres. Avant de rentrer dans le détail, comment vous appréciez l'exercice que vous avez fait, qui est le recueil de récits de vie? Parce que le recueil de récits de vie, c'est pas tout à fait la même chose que l'exercice de biographe.
C'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est tout de même une recherche dans les origines, aux origines de la personne, de toutes les familles. On remonte aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, et puis quelquefois, il y a des familles qui ont des documents sur des générations précédentes. Donc, c'est pourquoi je conseille aux auditeurs qui m'entendent, s'ils ont des documents sur leurs ancêtres, de les consigner, de les écrire, pour raconter leur vie pour leurs enfants et petits-enfants. Même si les enfants ne sont pas intéressés, et c'était a priori le cas des enfants de mon ami, il m'a dit qu'il ne voulait absolument pas que j'écrive sa vie, ça ne l'intéressait pas, mais me disant « ça n'intéressera pas mes enfants et ni mes petits-enfants ». Et ce n'est pas du tout. Les petits-enfants sont intéressés, peut-être plus que les enfants. Et les arrière-petits-enfants, je suis sûre qu'ils seront intéressés parce qu'on a besoin de savoir d'où on vient. Voilà. Et où l'on va, après, ça permet de savoir où l'on va. Mais d'où l'on vient, c'est extrêmement important. J'ai fait le même type de recherche que lorsque j'ai recherché des documents sur Marie-Louise, sur Guilly d'Herbemont, pour les aveugles, etc. J'ai recherché dans sa propre vie. Je lui ai demandé de ressortir certains documents, des photos de ses ancêtres, et à partir de là, Et je l'ai fait parler, d'accord. Ce qui a été difficile au départ.
D'accord. Ça a quand même été plus facile que de faire parler Riquet ou d'autres personnages. Est-ce que c'est un avantage d'avoir l'intéressé, j'allais dire, sous la main et qui va pouvoir vous donner des informations? Parce que est-ce qu'il n'y a pas le risque de dire, confiné dans un rôle de collecteur, de scribe, de la pensée ou de la vision de l'intéressé.
Oui, c'est vrai, c'est juste. Mais bon, il faut faire la part des choses. On est toujours influencé un peu par ce que dit la personne qui est en face de soi, mais les faits sont, c'est pas romancé du tout, pas du tout. C'est vraiment quand, par exemple, il part sur les cargos, il me donne des renseignements stricts, exacts. Les thérapies, c'est la même chose. Enfin, c'est, il ne raconte pas des histoires. Et puis, il est du genre à dire les choses exactes. Alors, je pense que...
Vous ne les avez pas remises en cause,
c'est ça ? Non, parce que je sais que c'est son caractère, en plus.
D'accord. Et vous n'auriez pas préféré, à partir de ce qu'il vous a dit, de faire quelque chose de romancé ?
Pas du tout, pour moi. Non, finalement, il n'y a qu'un livre, j'en ai même pas parlé, mais il y a un livre que j'ai romancé qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle « Où donc est passé le canal du Midi ?» C'est-à-dire qu'un jour, on se réveille, il n'y a plus de canal dans Toulouse. Et ça, c'est un livre qui s'est vendu comme des petits pains et qui était très romancé, mais partant de faits exacts, par ailleurs. Mais là, en réalité, moi, quand j'ai commencé à écrire sur René Battard, c'était pour ses enfants et petits-enfants. Vous voyez, je n'avais aucune idée du fait que je serais éditée. Pour moi, ça me paraissait impensable, parce que quand j'écris un livre, mes autres livres, j'ai mis 3 ans à les écrire. Et là, ça s'est passé pendant le Covid, le premier, où nous sommes restés 2 mois enfermés, entre guillemets. On ne pouvait sortir que pendant 1 heure. Et moi, je me suis retrouvée chez mon amie. Et pendant les 2 mois, parce qu'habituellement on habite séparément, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'ai un os à ronger, entre guillemets. Et finalement, l'os a été rené. Je l'ai interviewé, d'accord, quoi, comme donc, vous faites vous, avec moi.
Vous avez exploité de manière positive cette période de confinement.
Voilà.
Alors, vous disiez tout à l'heure, je ne l'ai pas écrit pour que ça soit publié. Bon, mais maintenant, vous avez accepté qu'il soit publié. Il a certainement accepté qu'il soit publié. Est-ce que c'est pas une sorte d'impudeur, finalement, d'avoir cette démarche ?
Et bonne question. Oui, surtout quand on est vivant encore, c'est cela. Mais premièrement, les noms des personnes, enfin de certaines personnes, ne sont pas cités. Ce ne sont pas les vrais prénoms. Alors bon, là... C'est une histoire, comme l'histoire, comme toute histoire d'une personne qui a vécu, qu'elle vive maintenant ou qu'elle vive au XVIIe siècle.
C'est un témoignage, effectivement.
C'est un témoignage de vie.
Alors, globalement, on peut qualifier votre ouvrage de récit de vie, de journal de bord aussi, parce qu'il y a des détails, il y a les époques, même des jours particuliers qui sont évoqués. Un récit thérapeutique, enfin... ou de conseils thérapeutiques ou de témoignages, c'est évident. Un gros coup de projecteur sur le mal-être, sur l'espoir, sur la capacité à rebondir. Donc globalement, une recherche de soi-même, une recherche spirituelle. Et moi, je dirais, c'est quand même une biographie très personnelle, qui est diffusée et qui représente finalement une démarche originale.
Merci.
Je vous propose la première pause musicale.
C'est bien le nom que tu voulais, toi qui ressembles à la marée, sur les cailloux de Saint-Malo. Flot sous tes paupières ultramarines, parfois je lis ou je devine la solitude des bateaux.
Pierre, t'es comme un rocher sur la lande, tu ne bouges pas, tu te demandes où peuvent bien aller les rivières.
Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut, mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Mireille Olin-Brière qui vient nous présenter son dernier livre, Navigation par gros temps. Mireille Olin-Brière, pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce choix de musique? Je rappelle Flo de Pierre Bachelet. Je lis les trois premières lignes de la chanson. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut, mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, etc., etc.
Alors j'ai choisi cette chanson que j'aime beaucoup déjà, j'aime beaucoup Pierre Bachelet, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en plus. Et pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est l'évocation de la mer, de l'évasion, de choisir un autre type de vie, éventuellement en prenant le bateau. Et c'est ce qui s'est passé pour René. L'envie d'autre chose, d'une renaissance, d'un nouveau départ. Et puis, donc, René a fait cela en partant, en quittant sa famille à 18 ans et en allant travailler sur les cargos. Et puis Florence Artaud, parce qu'elle a gagné la route du Rhum en 1990, reliant Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et c'est une femme libre, et donc c'est une jolie femme, libre, et à la fois forte et tourmentée. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Un peu comme René.
Avec peut-être aussi un objectif ou une aspiration commune qui sont la recherche de grands horizons, la recherche voilà, d'un ailleurs, ce que René recherchait effectivement, tout comme vous fait. Venez de le dire.
Et alors justement, ça m'a fait penser aussi à Marius de Pagnol, qui, on est allé voir la pièce de théâtre au Théâtre du Pavé, magnifique, à Toulouse récemment. Et on s'y est retrouvé, enfin lui s'y est retrouvé, moi aussi d'ailleurs, parce que il était bien à Marseille, ce Marius. Il aimait beaucoup son père, il aimait Fanny, il aimait beaucoup Marseille. Mais dès qu'il entendait la corne de brume, tout de suite, ça le faisait rêver pour partir ailleurs. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'a fait René.
Voilà, l'appel du large.
L'appel du large. Voilà.
Alors, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail de ce récit de vie. Vous intéressez d'abord à la description des rapports aux parents, et en l'occurrence du rapport qu'il avait avec ses parents. Comment on pourrait les caractériser, ces rapports?
C'était des rapports difficiles parce que ses parents l'ont aimé, c'est certain, on en a reparlé depuis, mais il ne se sentait pas vraiment aimé. Surtout, il avait des parents très travailleurs, solitaires, renfermés, et il aurait aimé être pris dans les bras de sa mère. Il a même, il y a 2-3 ans, commandé un tableau qui traduit sa vie, qui est un très très beau tableau, où justement on voit la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus. Et pourquoi il a voulu le faire mettre dans ce tableau? Parce qu'il aurait voulu être pris dans les bras de sa mère. Sa mère c'était une bonne mère d'une certaine manière, mais elle était froide. Et pourquoi? Parce que elle était... une fille, enfin, au milieu d'une famille de 10 enfants. Et ses parents étaient pauvres, mais vraiment extrêmement pauvres. Et elle n'avait pas connu vraiment l'amour. Elle a été à 4 ans, elle a évité d'être achetée par une... C'est pas elle qui a évité, c'est sa mère. Son père voulait la vendre à une famille bourgeoise qui n'avait pas d'enfants. Et pourquoi son père n'était pas méchant? Mais c'est parce que c'est une bouche en moins, voyez. Donc imaginez, elle l'a appris plus tard, imaginez la réaction de la mère de René. Après, elle a commencé à travailler à 12 ans chez des petits bourgeois et une famille difficile également. Elle ne voulait pas en parler. Elle a eu des attouchements. Enfin, on comprend pourquoi cette maman a été froide tout en élevant ses deux fils. Hein, c'est pas la question. René a compris tout ça un peu plus tard, mais il fallait être adulte pour le comprendre. Mais il explique que petit, ça l'a vraiment beaucoup marqué. Voilà. Et on avait l'impression qu'on ne s'intéressait pas à lui, d'autant que le petit frère était malade des bronches. Donc quand vous avez une personne, un enfant malade dans la famille, ben, on s'occupe plus de l'enfant malade, ce qui se comprend un peu. Mais enfin, attention, là aussi, alerte aux familles qui ont des enfants malades, il ne faut pas oublier les autres, voyez.
Exactement. Donc on peut parler dans ce cas, non pas d'un manque d'amour, mais peut-être d'une absence de démonstration d'amour. De la même façon, en conséquence, on comprend qu'il y a des répercussions sur la personnalité, et on comprend aussi aisément que c'est la prise de conscience, mais qui ne peut pas se faire sur le moment, qui délivrera un petit peu la personne en question des conséquences de ce manque de démonstration d'amour.
Et ce que je voulais ajouter, c'est que le papa était très travailleur, quelqu'un d'honnête, hein, avec des belles valeurs, mais c'était des gens qui se sentaient dévalorisés. Mais c'est inimaginable, à un point tel, il ne se sentait pas bien dans la société. Et il avait même dit un jour, je voudrais être le fruit d'une fausse couche. Vous voyez, enfin, c'est inimaginable. Ouais. Et lui, il faisait tout pour qu'on ne s'occupe pas. Il voulait être invisible d'une certaine manière, le papa. Enfin, comme tous les deux, enfin, les parents. Donc, un exemple, pour la télévision, ils avaient acheté la télévision, mais ils ne voulaient pas que les voisins le sachent. Donc, il avait mis l'antenne dans le grenier. Il n'allait pas à la messe, mais il voulait que les enfants aillent à la messe pour être comme tout le monde. René aurait voulu être enfant de cœur, mais non, il ne fallait pas surtout se montrer par ailleurs. Enfin, tout était comme ça.
Voilà. Et donc, c'était effectivement, ça déterminait un certain style de vie, une certaine ambiance. Et une autre dimension, dans la réaction de René, c'est le manque de reconnaissance de la part de ses parents dans ce qu'il entreprenait. Alors ça a commencé à l'école et puis ça s'est poursuivi dans sa vie. Et ça aussi, ça a été un élément déterminant.
Absolument. Et c'est vrai que ça l'a marqué pour la vie, je pense. Quand il a eu son certificat d'études, on lui dit c'est pas mal. Quand il a eu son brevet son CAP de boucher, on lui fait pas de compliments. Quand il a eu, quand il est parti même sur les cargos et quand il a eu des belles histoires dans sa profession avec des très belles réussites. Hein. Dans sa profession, jamais, aucune reconnaissance. Et ça, ça a été dur pour lui. Donc, il faut encourager les enfants. Ouais. Et même s'ils ne réussissent pas toujours, il faut mieux leur dire que ça ira mieux et qu'ils fassent un petit effort. Mais il faut les encourager et ce ne fut pas le cas.
Il faut les soutenir, nous retenons le message. Au-delà du rapport aux parents, René a un rapport particulier avec les femmes en général, d'ailleurs que ce soit sa mère ou les autres femmes, qui est un rapport que l'on pourrait qualifier peut-être un petit peu de soumission, voire de castration, dans les personnes dans féminine qu'il a eu l'occasion de côtoyer, de rencontrer, et avec lesquelles, pour certaines, il a vécu.
Oui, alors c'est vrai que pendant de nombreuses années, il est tombé sur des personnes dominantes, des femmes dominatrices. Sa mère était dominatrice à sa manière. Elle voulait tous les matins, même quand il était adulte, il fallait que elle aille le réveiller. Il lui disait, mais je suis capable de me réveiller tout seul, etc. Lui voulait, elle le servait à table, vous voyez, et lui voulait se servir, mais jamais il lui a demandé de se servir à table. Non, elle était dominatrice. Bon, ça partait d'une bonne intention peut-être, c'était gentil, hein, faut pas dire le contraire. Mais lui, bon, il voulait être indépendant. Et son épouse était une dominante aussi. Et les femmes qu'il a rencontrées longtemps ont été des dominatrices. Et un jour, tout a basculé, enfin, il a divorcé. Enfin, divorcé pas pour cette raison, hein. C'est des raisons personnelles, mais enfin, qui peuvent se comprendre. Et à partir de là, il a décidé de ne plus se laisser dominer. Et depuis, il ne se laisse pas dominer.
Donc, pour revenir aux propos que vous teniez au départ, effectivement, c'est qu'il faut un certain temps du recul pour tirer un petit peu les conclusions sur les choses que l'on a vécues qui paraissaient intangibles et qui finalement peuvent être changées, mais il faut du temps au temps.
Il faut du temps au temps. Mais ça, je pense que c'est la vie de tous. Et il faut surtout essayer de se comprendre, essayer de ne pas imposer ses idées aux autres, essayer de les comprendre, de partager, et qu'il y ait de l'amour dans tout ça. Tout est là, finalement. Tout est là.
Alors, au-delà de ces rencontres féminines, de cet environnement familial, la vie est passée avec ses bons côtés et ses traumatismes. Et du côté des obstacles, René a été assez gâté. Et en particulier, donc, on peut citer un accident de voiture qui l'a particulièrement marqué, ses divorces. La déprime sous-jacente qui s'est installée, tout ça a été dur à gérer.
Oui, et notamment, alors l'accident de voiture, ça a été terrible pour lui. C'était son meilleur ami, un peu son père, c'était un homme qui avait 20 ans de plus que lui, son confident, et il ne roulait pas vite, mais dans l'accident... son meilleur ami est mort sur le coup, lui a été accidenté, mais il a décidé de rebondir, évidemment, et il s'est noyé dans le travail, et la preuve, c'est qu'il a été le premier représentant de France dans le domaine où il travaillait. Il s'est noyé dans le travail. Et ce qu'il a fait également, alors on y croit, on n'y croit pas, mais il est allé voir une personne qui a des contacts avec les morts, comme je vous dis, on n'y croit pas, et la personne peut-être, enfin, lui a dit, ton ami est à côté de toi, et il te dit qu'il faut que tu continues ta vie, parce que ton ami, il lui a dit, moi, j'avais fini la mienne, et c'était dans les règles, quoi. Voilà.
Alors, comme vous le dites, très justement, on n'y croit pas. Dans ce livre, il ne faut pas effectivement prendre les choses au pied de la lettre, mais on va y revenir en détail, mais sur la quête, une quête spirituelle d'ailleurs de quelqu'un, autodidacte à la base, mais comme tous les autodidactes, très pugnace, très volontaire et qui veut se donner les moyens. Je vous propose, Mireille Aublin-Brière, une seconde pause.
Faut quoi rêver d'un paradis, c'est maintenant et c'est ici. Il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain. On dit plus tard, même si demain c'était trop tard, pour partager ce bonheur. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire de nouveaux jours un Alléluia. 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 Viens sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Mireille Aublin-Brière est toujours avec nous, sa timidité ne l'a pas fait fuir et nous nous en réjouissons. Je vous rappelle que nous parlons de son dernier ouvrage, Navigation par gros temps, paru en 2021 aux éditions Complicité. Alléluia. De Johnny Hallyday.
Oui, alors j'avais pensé au Alléluia de Leonardo Cohen, que j'aime beaucoup. Mais c'est en anglais et j'ai supposé que tous vos auditeurs ne connaissaient pas l'anglais. Il y en a sans doute qui connaissent parmi les jeunes, les moins jeunes comme moi, pas toujours. Donc j'ai préféré choisir le Alléluia de Johnny Hallyday, qui est très fort, je trouve.
Vous avez raison, parce qu'à Radio Présence, nous donnons la priorité à la langue française.
Ah, très bien, alors.
Et alors, au-delà de votre goût pour cette chanson, c'est le message qu'elle véhicule ?
Oui, complètement. Puis je trouve que c'est d'actualité parce que lorsqu'il chante « Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix ?» Moi, je pense à Israël et aux Palestiniens. Il faut trouver toujours la paix, il faut arriver à la paix, même si ça va être très difficile. Mais je pense à cela, je pense qu'on vient sur Terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager. Voilà, moi tout est dit là.
Voilà, donc un message très fort de partage et de concorde.
Oui, parce que sinon qu'est-ce qu'on fait sur Terre ?
Exactement, ça devient...
Si c'est pour amasser de l'argent, mourir une fois qu'on l'a amassé et ne rien faire avec nos semblables... Voilà. C'est complètement ridicule.
C'est réjouissant d'entendre un appel humaniste. Alors revenons à René. René, effectivement, se construit dans sa vie des outils pour parer aux obstacles et pour essayer de progresser. Et on voit tout au long de ce livre, et c'est à ce titre-là, à mon avis, qu'il est extrêmement intéressant, c'est de voir le cheminement de quelqu'un qui s'outille, qui va chercher à droite, à gauche, je dirais même devant, derrière, des solutions. Et parmi ces solutions, il y a des solutions qui paraissent bonnes, qui paraissent logiques. Et puis il y en a d'autres qu'on serait facilement, enfin qu'on pourrait remettre en cause très facilement, qui paraissent même peut-être aberrante, mais ça, c'est un chemin chaotique pour, comme il est dit dans le livre, trouver le fond de son âme.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il a Alors, ce qui a été très fort pour lui, je pense tout de même, ce sont ses années de travail. Il a travaillé 46 ans. Hein, et le travail lui a apporté la sérénité. D'ailleurs, on se rejoint là-dessus, parce que pour moi, le travail, c'est la liberté. Mais pour les femmes, hein, entre autres. Mais René, le travail, ça lui a apporté la sérénité, la confiance. Il a été reconnu. Et notamment, il a travaillé avec un grand patron qui s'appelle Fraisse, je ne sais pas si je devrais le citer, qui est milliardaire maintenant, mais qui est parti de zéro. Alors, j'aime bien citer cette personne, peut-être parce que c'est quelqu'un, je parlais des richesses, c'est vrai qu'il est riche, mais il est parti de zéro, il a beaucoup travaillé, et René a travaillé avec lui, et cet homme-là a été très humaniste avec tout son personnel, le payant correctement, et très humaniste dans de nombreux domaines. Donc ça a été un exemple pour René. Alors il y a le travail qui lui a permis de s'élever, d'avoir confiance en lui, et puis il y a le fait qu'il a recherché dans la religion quelque chose qui puisse le faire avancer et qui puisse lui apporter une sérénité. Et donc, il a cherché un peu partout. Alors, il a, par exemple, il aime beaucoup Saint François d'Assise, la Vierge Marie, Padre Pio. Enfin, ça, ce sont ses grandes références, mais aussi bien parmi des gens qui ne sont pas dans la religion aussi. Je cherche le nom, je ne le trouve plus. En Inde, celui qui a... que tout le monde connaît en Inde. Mais après, il est entré dans la religion catholique, dans la religion musulmane. Et là, il y est resté 3 ans. Dans cette religion musulmane, parce qu'il a rencontré une amie algérienne, enfin une simple amie, hein, c'était pas sa petite amie, qui lui a expliqué ce qu'était le Coran, etc. Ils ont beaucoup discuté et il a plongé là-dedans. Il a été très sérieux pour cela. Il faisait ses prières dès qu'il pouvait, hein, parce qu'il travaillait, 5 prières par jour. Il faisait la charité, enfin. Et il a fait le ramadan 2 fois, ce qui était difficile, d'autant travaillant. Il a été très honnête, puis jusqu'au jour où il s'est dit... Alors, jusqu'au jour où il a entendu au Mirail, justement, des personnes qui parlaient d'Al-Qaïda et compagnie, enfin, tout ce qu'on n'aime pas. Et donc, il s'est arrêté et il s'est dit, non, c'est un domaine... Moi, je veux de l'amour et je ne veux pas... du terrorisme, quoi. Donc il a entendu cela dans certaines mosquées, même, vous voyez. Donc il s'est arrêté du jour au lendemain. Il n'a plus voulu en entendre parler. Et après, il a le judaïsme, il a étudié cela. Le bouddhisme également, ça c'est quelque chose qui lui plaisait. Mais après, il s'est fait sa propre histoire. Il trouve le sacré dans beaucoup de choses. Et il s'est dit, aimer la nature, aimer les gens, aimer et ne pas chercher peut-être des choses qui ne... Enfin, l'au-delà, il y croit. Enfin, vous voyez, c'est bon, je résume un peu tout ce qu'il m'a raconté et qui est dans le livre. Mais voilà, il a trouvé un équilibre en disant... il ne fait pas de syndicalisme, il ne fait pas de politique, il a une vie honnête, il a des valeurs vraiment humaines, des valeurs... la parole donnée, c'est quelque chose pour lui d'important, comme ses parents. Ses parents lui ont appris tout cela. Et voilà, ce sont ses valeurs, et maintenant il ne veut plus entendre parler. C'est la spiritualité, ah voilà, ça c'est la spiritualité, le sacré, et on s'en tient là. Voilà.
Alors effectivement, sur cet aspect-là, c'est un témoignage très intéressant qui démontre la démarche, les hésitations et je dirais le fait d'essayer quelque part. Oui. Alors c'est vrai aussi qu'à la lecture, pour être très honnête, on peut avoir parfois l'impression qu'il y a comme une naïveté. dans les choix, comme une influence assez prépondérante de l'environnement, de temps en temps. Mais même s'il s'engouffre dans une direction, il sait faire demi-tour. Au bout d'un moment, il sait prendre du recul, même si, par ailleurs, son environnement direct lui fait remarquer, notamment ses enfants, que bon, il y a certaines des solutions, certaines des expériences qu'il mène, qui ne sont pas vraiment, vraiment pertinentes et qui pourraient avoir la clairvoyance d'abandonner plus rapidement. Hein, c'est un
tout
peu
à
ça.
Fait, tout à fait, mais on en a discuté. Et justement, il en est conscient. Mais il vous dira, il ne regrette rien parce qu'il vous dira, il faut faire son propre cheminement. Et à partir de là, en principe, on s'élève. Mais il faut passer par des étapes comme cela pour être plus fort après.
Alors, effectivement, c'est un long cheminement de l'enrichissement personnel. Mais c'est vrai que c'est aussi un chemin à risque. Et en ce sens, ce chemin à risque, qui est bien explicité dans l'histoire, j'allais dire dans cette histoire, a valeur de grand témoignage, effectivement. Alors, il faut savoir arrêter quand ça ne marche pas très bien, quand on fait fausse route. Maintenant, on peut aussi se demander si tout le monde est capable d'éviter la fausse route. Quand vous parliez de son expérience avec l'islam, je veux dire, d'autres n'auraient peut-être pas vu les problèmes que ça pouvait poser.
Hein? Tout à fait, oui, oui. Mais il a fait une autre expérience importante, c'est l'accompagnement des personnes en fin de vie pendant 8 ans. Il les a accompagnés, les mourants, quoi, pratiquement. Donc, une vingtaine de personnes, dont un grand chercheur scientifique toulousain qui avait la maladie de Crohn. Et ça a été, pour lui, ça a été important. Il a appris avec des psychologues, il a fait un stage sur le sujet. Il a appris à accompagner ces personnes en étant... en leur laissant leur propre personnalité. Il ne faut pas les influencer. Quand même à quelques heures de la mort, on doit respecter la personnalité de chacun. Enfin, c'est une belle expérience. Il m'expliquait tout ça dans le détail.
Et on le sent comme une préoccupation très forte de sa part dans le livre, dans la mesure où... la fin du livre et le bilan qu'il en tire est largement influencé effectivement par le souci d'autrui. Hein, c'est quelque chose de récurrent. Alors dans ce roman, j'ai beaucoup apprécié aussi finalement, il est assez descriptif. Et il y a des détails qui sont donnés sur les années 60, sur les marques de voitures automobiles, des choses comme ça. Donc c'est aussi une petite replongée dans l'histoire qui n'est pas très 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 ancienne, mais où effectivement, à l'aide de détails, vous avez su faire revivre l'ambiance du moment. Vous avez travaillé cet aspect particulier ?
C'est-à-dire, comme je suis du même âge que René, j'ai rappelé un petit peu tout ce qu'on a vécu et du point de vue historique également. L'appel du général de Gaulle, le fait, la guerre. Attendez, commençons par la guerre parce que nous avons vécu la guerre. On a l'impression d'être des antiquités quand on dit ça, mais en 39-45. Eh bien, nos parents étaient dans la guerre, nous sommes nés pendant la guerre, et c'est quelque chose qui nous a marqué à vie, lui comme moi. Et pendant 20 ans après, l'après-guerre, ça a été terrible, hein, puisque moi, je suis normande, alors je parle un peu de moi là, mais dans mon village, à Vire, Caen, etc., tout a été détruit à 80%. Ce que vous voyez... dans les films, enfin dans les documentaires, aussi bien à Gaza qu'en Ukraine, on l'a vécu. Et alors j'ai rappelé la vie de René au milieu à cette époque. J'ai rappelé tout ce qui s'est passé, aussi bien le mur de Berlin, l'appel de l'abbé Pierre, J'ai rappelé également tous les présidents de la République qui ont vécu, enfin, durant lesquels nous avons, René a vécu. Et il y en a encore, j'espère qu'il vivra encore longtemps.
Oui,
il y en a une dizaine. Hein.
Et oui, ça commence par Félix Gouin, de janvier à juin 1946, vous précisez. Et puis vous arrivez effectivement à Emmanuel Macron en 2017.
Voilà, oui.
Ce qui donne une échelle de mesure de ce roman, enfin de ce roman, de ce récit, pardon, qui constitue plus qu'une tranche de vie. Et je crois qu'en conclusion, on peut dire que c'est un livre qui pourra aider les uns et les autres, au-delà de son aspect témoignage dans de nombreux domaines, à choisir ses médecins de l'âme, peut-être, avec pertinence et sans danger. Mireille Aublin-Brière, le prochain ouvrage que vous nous préparez, on peut savoir ?
Ah ! Je pensais peut-être écrire encore un livre sur Riquet, mais de manière beaucoup plus légère, parce que c'est très, très sérieux ce que j'ai écrit sur Riquet. Alors j'ai une idée. Et puis également, alors ça fait des années qu'on m'incite à écrire ma propre vie, parce qu'elle n'est vraiment pas banale du tout. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires et j'ai du mal à m'y mettre. Je réunis tous les documents. Mais je pense que c'est encore ma timidité et mon côté pudique. Enfin, je ne sais pas, j'arrive pas à démarrer. Alors, j'espère que dans un an, j'aurai démarré. C'est mon objectif.
Bon, voilà. Écoutez, nous le souhaitons très sincèrement. Et dès que c'est prêt, dès que c'est fini, vous nous faites signe et on se fera un plaisir de vous accueillir à nouveau à Radio Présence. Merci Mireille Aublin-Brière pour ce magnifique livre « Navigation par gros temps » paru, je le rappelle, aux éditions Complicité. Merci aux auditeurs pour leur fidélité et je vous rappelle que cette émission sera podcastée, pourra être écoutée désormais sur toutes les plateformes numériques. Merci, au revoir à tous.